C'est parti pour la deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la vaccination contre Covid-19. On avait dit que c'était en provenance des USA et non, c'est pas en provenance des USA, plutôt d'Oxford. En Angleterre, tel que notre expert vient de nous dire, Dr Michel Mouvoudi. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler de l'autonomisation de la femme rurale. Comment réussir l'autonomisation de la femme rurale? Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Mimi Kindou, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama.
Ngoma Yakouetou. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Bien, nous parlons à présent de l'autonomisation de la femme rurale. Vous savez, les femmes vivant en milieu rural sont confrontées à des multiples difficultés, d'après les experts, leurs opportunités en matière d'éducation et de travail et leur accès aux services sociaux et de santé sont limités. Pourtant, elles accomplissent la plupart du travail agricole, elles produisent les denrées alimentaires consommées dans les centres urbains. Malgré leur contribution à la sécurité alimentaire, les femmes rurales font face à plusieurs barrières sociales qui les empêchent de devenir autonomes financièrement, qui les empêchent de d'évoluer par rapport à ce qu'elles font. Alors, nous avons en ligne Père Adrien Guessé, expert en développement et coordonnateur de l'ONG Action pour la protection et la promotion des femmes et enfants marginalisés. Père Adrien Guessé, bonjour.
Prêt de participer à votre émission.
Bienvenue dans cette émission, Père Adrien. La première question est de savoir quels sont les problèmes auxquels la femme rurale fait face.
Ah, mais la femme rurale est confrontée à de nombreuses difficultés. D'abord, c'est le premier problème que je relève, c'est le problème des compétences au niveau de sa formation. Bon, ce sont des femmes qui sont arrivées comme ça là, dans des sociétés, dans des familles, dans des communautés. Elles n'ont pas eu accès aux études, n'ont pas eu accès aux formations adaptées, si bien qu'elles méconnaissent, elles ne connaissent pas tout à fait leurs droits. Alors, la première chose que nous on fait au niveau de notre organisation, c'est d'abord de les mettre en confiance et de dire à ces femmes-là que vous êtes des personnes, que vous avez des capacités, que vous pouvez faire ceci ou cela. Donc, en un mot, je voulais bien dire libérer leur potentiel. C'est dire qu'elles ont des capacités, mais qui sont souvent niées ou rejetées par notre société qui a prédominance masculine. Mmh. Alors, il y a beaucoup de blocages au point de vue des lois qui sont édictées dans notre législation, mais aussi au niveau des coutumes. Il y a tellement d'interdits vis-à-vis de la femme qu'elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Alors, si bien que cette femme-là se retrouve dans une incapacité, dans une pauvreté mentale qui a des répercussions assez néfastes sur son vécu quotidien.
Et pourquoi la plupart de ces femmes...
Oui. Se répercute, se manifeste par une pauvreté matérielle proche de la misère, mais aussi par l'ignorance vraiment de ses droits. Alors, quand cette femme-là est tout à fait dans cette situation-là, vous comprenez qu'elle est vraiment défavorisée par rapport à celles qui ont eu la chance peut-être d'aller dans les écoles, dans des milieux urbanisés et tout cela. Et pourtant, c'est cette femme-là qui travaille beaucoup, qui produit pour nos sociétés et tout cela. Vous voyez que les décideurs ne font pas vraiment attention à ce genre de personnes qui travaillent beaucoup hein, pour la société. Voilà en un mot ce que je voulais vous dire, les difficultés hein, que j'essaie un peu de montrer là vis-à-vis de la femme rurale qui vit déjà d'abord dans une pauvreté vraiment exécrable.
Et au niveau de la Profem, qui est l'ONG que vous dirigez, vous prenez en charge ces femmes. Dites-nous comment vous arrivez à les aider à devenir autonomes dans la vie.
Alors, ces femmes-là, nous donnons des formations assez adaptées. Vous savez que nous avons une maladie ici dans notre pays que j'appelle moi la diplomiade. On veut toujours avoir des diplômes, peut-être pour rien faire. Mais ces femmes-là nous donnent des formations assez pratiques, de courte durée, qui peuvent faire qu'à la fin de leur formation, elles peuvent bien se procurer quelque chose, commencer leur petite entreprise et ainsi participer à la survie de la famille. Ces femmes qui étaient totalement dépendantes des hommes parce qu'elles n'avaient rien appris, mais lorsqu'elles essayent d'apprendre quelque chose, cette femme-là qui peut maintenant fabriquer son savon, qui peut fabriquer du vin à base de micelli, hein, qui peut faire.
Donc, il y a beaucoup de choses. Précisons que vous êtes à Bangoundouville.
Hein. Chez nous, à la sortie, elles s'en sortent quand même avec quelque chose.
Voilà, précisons que vous êtes à Bandonville, c'est là où vous menez vos activités. Vous encadrez ces femmes par rapport...
À Bandonville, c'est environ 400 kilomètres de Kinshasa. Bandonville, c'est une ville assez calme, mais qui, du point de vue économique, est assez défavorisée, surtout par le manque de routes. Hein, d'ici que des Bandonville à Kinshasa, vous pouvez facilement faire une semaine en route hein, avec ces temps-ci qui courent. Et les femmes sont très nombreuses qui peuvent faire quelque chose, mais elles sont assez limitées parce que il n'y a pas d'attention envers ces femmes-là.
Voilà. Et avant de les encadrer dans votre structure, quel genre d'activité ces femmes faisaient avant? Elles sont toujours toutes dans les secteurs agricoles?
Bon, pour la plupart, sont des secteurs agricoles et je dirais aussi beaucoup d'entre elles, disons la majorité, comme je disais tout à l'heure, là, dépendait excessivement des hommes. Nous avons vu ça lors du pillage de 93. Là, j'étais personnellement tiré à Kinshasa. Après la messe, j'avais une panoplie de femmes devant mon bureau. Vous pensez, M. Jody, que c'était pour venir demander la prière sur cela? Non, c'était pour demander de l'aide. Demander de l'aide parce que les maris avaient perdu totalement leur emploi, les sociétés n'existaient plus. Alors il fallait trouver de l'argent quelque part. Et nous, on a pensé qu'avec cette catégorie de femmes, il fallait trouver des voies et moyens pour leur donner des formations appropriées, de façon que qu'elles sachent faire quelque chose pour leur vie et contribuer à la survie de leur famille. Donc, généralement, ce sont des femmes qui viennent du secteur agricole, surtout dans nos milieux ruraux. Mais encore, dans quelles conditions ces femmes-là travaillent? La vie est tellement dure, pénible. Dans ce milieu-là.
Et quand elles viennent apprendre chez vous à fabriquer du savon et autres, ça se fait gratuitement ou bien elles payent quelque chose?
Ah, je dois vous dire ce que nous appelons la formation en technologie appropriée. C'est une quarantaine de modules. Fabriquer de savon, de jus, de confiture, de vin, de parfum et tout cela. Ce sont des formations qui sont très très chères. Lorsque moi j'ai envoyé des femmes apprendre ces formations à Kinshasa, on déboursait aux environs de $500 pour qu'elles apprennent ça. Mais abandonnez-nous, lorsque vous demandez à une femme de payer ne fût-ce que $30, ça ne peut même pas suffire le matériel qu'on achète pour l'expérimentation. Mais c'est très difficile à avoir des gens qui peuvent vous payer ça. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est gratuit parce que où est-ce que vous allez acheter tous les intrants? Avec quoi? Et comment vous allez faire fonctionner les centres et tout cela? Hein? Si on a un appui, on essaie de faire quelque chose. Je dois dire qu'une fois, nous avons été sollicités par la FAO, nous avons formé des centaines de personnes qui sont sorties brevet en main, mais aussi à la fin, la FAO leur avait donné un petit financement pour commencer leur propre entreprise. Et ça avait très très bien marché. Nous, ce que nous avons mis à la disposition de la société, c'est les centres que nous avons créés et c'est aussi nos compétences. mais pour financer ou aider en termes d'argent et tout cela, ça nous ne pouvons pas parce que nous sommes une petite structure avec peu de moyens. Ce sont les autorités qui devraient au moins avoir un peu plus d'attention avec ce genre de choses qui se font. Alors je dois vous dire que c'est un des plus grands centres au niveau de la province d'Itil qui a eu cette initiative-là et qui a fait beaucoup de bien. Je dois vous dire, si vous allez à Bandoune, vous parcourez, vous allez avoir beaucoup d'ateliers, de ceci, de cela. Ce sont des gens qui sont sortis de ces centres-là, des gens qui vous fabriquent du savon. Et même les prix, cela fait que le prix du savon soit presque le même que celui de Kinshasa et tout cela. Donc nous avons beaucoup de choses. Il était question simplement de faire voir, de donner de confiance à ce moment-là pour leur dire que, voilà, vous aussi, vous pouvez construire. Sortez de cette prison-là que la société masculine nous a mis, soit disant que moi, si, à Kokikotongambokate. Non, la femme peut aussi construire. La femme rurale peut apporter quelque chose pour le développement de sa communauté, de son village. Et lorsque les décideurs ou les hommes de bonne volonté ou les entreprises peuvent encourager de telles initiatives, je crois que ensemble nous allons créer des micro-entreprises par ces femmes-là qui sortent de formation et qui aident aussi par les taxes qu'ils vont payer, par les impôts qu'ils vont payer, qui vont contribuer quand même au développement de notre société, de notre communauté.
Bien, Père Adrien, quand on parle d'autonomisation, qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
L'autonomisation, c'est... Moi, c'est la voie de l'auto-prise en charge. On veut rendre une personne capable vraiment de se prendre en charge, de ne pas toujours être dépendante. Et cela nous pousse à nous poser des questions personnellement ou à l'individu qui reçoit la formation. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Et pourquoi je ne peux pas faire cela? Donc, on la rend consciente de ce qu'elle est. Et surtout d'avoir confiance en elle, qu'elle a des capacités, qu'elle a des potentialités, hein, qu'elle a des ingéniosités, qu'elle peut, qu'elle a de la créativité, elle peut faire quelque chose. Donc, autonomiser une femme, c'est faire de façon qu'elle ne dépende pas nécessairement des autres, parce qu'elle a des capacités. Pas nécessairement l'homme qui a la capacité de faire ceci ou cela, la femme aussi, elle peut faire. À partir du moment où elle sera consciente, elle peut créer des choses pour se rendre autonome.
Bien, on va accueillir un auditeur, Kachai, depuis Kanyuka. Bonjour, Kachai.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'autonomisation de la femme rurale?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous, d'ailleurs, ici au village Kanyuka, nous sommes très bien intéressés par le sujet du jour, parce que ça nous réconforte. Nos femmes d'ici, nos mamans d'ailleurs, se sont organisées dans une coopérative. Et dans cette coopérative-là, c'est vrai, ils se lancent dans la culture des différentes denrées ici, c'est vrai, et aussi dans l'élevage. En ce qui concerne l'élevage, elles avaient reçu un don de la part aussi d'un autre abbé, des chèvres, des poules, pour élever. C'est vrai qu'ils avaient élevé, mais ils ont connu un problème sérieux de vol. Il y a des gens au village qui sont venus, ils sont partis au troupeau, ils ont volé quelques chèvres dans ce sens-là. Et ça a un peu
découragé
quelques mamans à pouvoir continuer. Ils avaient encore fait la culture des maïs et des soja. Mais je vous dis, monsieur, je vous dis, les voleurs sont encore partis.
Et ils ont volé même au niveau des champs.
Ils ont même volé le soja, le niébé et le maïs.
Dommage.
Alors, au village Kanyoka, monsieur Jody, à partir duquel je vous appelle ici, et les mamans se sont découragées. D'ailleurs, les unes avaient, à l'aide de ces cultures-là et de l'élevage, avaient même déjà commencé les petits commerces à l'aide de ces produits-là. Ils vont vendre et puis l'argent qu'elles gagnent, elles mettent dans la caisse et puis les choses évoluent comme ça. Mais découragés par les hommes-là qui ne font rien au village, qui se lancent maintenant à décourager le travail entrepris par les mamans. Alors, c'est pourquoi je voulais demander à l'invité. Alors, tellement qu'il a de l'expérience par rapport à l'autonomisation de la femme rurale, qu'est-ce que la femme peut alors faire en dehors des champs, de l'élevage, mais découragée par les hommes que nous sommes, parce que quand elle le fait là, parfois, il y a d'autres hommes qui n'encouragent pas le travail de leurs femmes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au village, ce sont nos mamans qui font nourrir les ménages. Et les hommes, nous sommes dans des chichampas, dans le jeu des dames, dans des débats par rapport à la politique. C'est un peu ça. Mais nos mamans ont des assiettes sur la tête. Elles montent, elles descendent. Alors maintenant, je vais l'inviter. Quel conseil il peut prodiguer à ces mamans-là, encouragées déjà dans le travail qu'elles avaient déjà commencé, à pouvoir capitaliser les efforts pour aller de l'avant? Merci beaucoup.
Bien, merci. Ami, si vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà. Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est claire, messieurs les journalistes. Vous savez que le débat d'aujourd'hui, le sujet est très capital et génial. Je salue d'abord celui qui a fait le choix, qui a porté le choix sur ce sujet-là. Vous savez, au village, messieurs les journalistes, je pense qu'il y a un expert autour de vous, à côté de vous, qui va me dire qu'il va être d'accord avec moi. Vous savez, il y a une faiblesse. Tout doit être d'abord au départ. Ça veut dire que la faiblesse de la femme vient d'abord au niveau du mariage.
Est-ce que vous êtes à côté de vous êtes à côté de la radio? Vous pouvez vous éloigner de votre radio ou...
Parce que je m'éloigne.
Voilà, on a un retour pas intéressant.
Ok, vous savez, monsieur le journaliste, il y a une faiblesse. La première faiblesse ici, c'est le mariage. Et quand moi je parle du mariage, c'est ce qui affaiblit même l'autonomie. Et ce qui n'encourage même l'autonomie de la femme. Il y a les problèmes de la dot. Ici, au village, c'est l'homme qui prend la femme, qui marie la femme, qui donne sa fortune à la famille de la femme. Automatiquement, la femme devient inférieure à l'homme. Et l'homme a un mot à dire sur l'autonomie de la femme. Et l'homme a la décision de prendre une décision autour de la femme. Deuxième faiblesse là-bas, ici aussi la femme elle-même. La femme préfère être dépendante de l'homme. C'est une autre faiblesse là. Et la troisième faiblesse ici, c'est la coutume. Vous voyez, la femme n'est pas associée aux grandes décisions de la maison. Et puis, voilà ici chez moi, j'ai un exemple typique. J'avais un grand frère au village. Ce grand frère-là avait l'idée là d'autonomiser la femme, de donner la chance à la femme d'évoluer elle-même. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le grand frère avait donné un moyen à la femme pour que la femme puisse se prendre en charge. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La femme a évolué dans les commerces, mais à la fin de compte, la femme voyage même à Kinshasa, mais ce qui est arrivé, c'est l'orgueil. La femme a développé l'orgueil. La femme a développé l'insoumission. Et ce qui a fait en sorte que l'homme puisse suspendre les activités de la femme. Voilà, c'est pourquoi moi j'aimerais dire à l'invité ici, toutes les femmes qui sont autonomes ici, ce sont les femmes prostituées. Ce sont les femmes prostituées. Mais quand une femme se plonge dans les commerces, dans l'autonomie, quand la femme devient autonome dans les commerces, dans les commerces ou dans les activités commerciales, même dans l'élevage, vous voyez que c'est l'orgueil, elle développe l'orgueil, elle développe l'insoumission à l'homme, et ce qui bloque encore les affaires, et l'homme prend la décision, il interrompt les activités de la femme. Voilà ce que moi je voulais dire. Si l'invité peut ajouter autre chose, si l'invité peut me contredire, il peut dire autre chose.
D'accord, merci. Père Adrien, vous avez la parole.
Je voudrais d'abord partir du premier auditeur que je salue, qui m'a fait comprendre que même chez lui là-bas, que c'est une autre société et à prédominance mâle, prédominance masculine. Mmh. Et c'est l'homme qui essaye de s'imposer. De s'imposer, de dicter sa loi, tout cela. Et c'est ces hommes-là qui viennent voler pour décourager. Donc là, nous avons affaire à des coutumes qui sont, je vais essayer un peu de paraphraser, que c'est ces coutumes qui ne sont pas à la hauteur de pousser, de propulser le développement. Comment ces femmes qui essayent de faire leur champ, d'élever leurs bêtes et tout cela, et ce sont les hommes qui viennent la nuit voler. Là, ils ne veulent pas que la société puisse évoluer, que ces femmes puissent faire quelque chose. il faut que nous puissions nous dire que sans les femmes, nous ne pouvons pas aller dans le processus de développement seul. Nous ne pouvons pas. Vous savez que nous sommes dans une société qui actuellement, si on essaie un peu de voir au point de vue numérique, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes et tout cela. Mmh. Et si nous voulons que ces femmes-là continuent à dépendre nécessairement de nous, elles qui sont nombreuses, elles vont dépendre d'un petit groupe et tout cela, vous voyez là qu'il y a un déséquilibre, ce qui fera que nous resterons toujours dans le sous-développement. Au contraire, poussons ces femmes-là à apprendre, à faire quelque chose, à contribuer aussi pour prétendre à un équilibre de, ou à une harmonie au niveau du développement de notre société. Alors, je vais terminer par en lui disant ceci, que ces femmes-là ne se découragent pas, parce que on a eu aussi des cas comme ça là ailleurs. Le développement, c'est pas quelque chose qui va comme une baguette magique. Vous allez rencontrer des obstacles. Des obstacles, on en rencontre dans tous les domaines. Et même dans ce que vous entrevoyez de faire là-bas, oui, il y aura toujours des gens qui viendront vous mettre le bâton dans les roues. Je donne un exemple plus précis du côté du Diofa, les Oblats, parce que je suis Oblat. Nous avions commencé un projet des étangs. Les religieux qui étaient là travaillaient beaucoup pour ces étangs, mais la nuit, c'était toujours des gens du village qui venaient voler.
Qui volaient les poissons.
Voler, qui venaient voler tout ça là. Mais après, on a réfléchi pourquoi ils viennent voler. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion, il faut que nous les aidions à faire les propres étangs. Ce que nous avons fait, nous avons procuré pour eux des alevins qui avaient déjà creusé son étang, venaient avoir des alevins. Mais je crois que la situation a beaucoup changé maintenant, il y a un peu plus de temps et il y a moins de vols. Donc à ces femmes-là, je dis qu'elles ne se découragent pas, qu'elles continuent à cela. Mais cela n'exclut pas qu'elles peuvent aussi apprendre quelque chose comme ce que nous parlions tout à l'heure des technologies appropriées, qu'elles essaient un peu de voir dans leur milieu spécifique, qu'est-ce que le Seigneur a leur offert. Ça peut être des fruits, ça peut être d'autres feuilles. En apprenant à transformer cela, elles peuvent vendre et vivre.
Bien, Ami Sidekindou nous dit que...
Qui parlait de l'insoumission des femmes et les femmes qui réussissent dans l'autonomisation des prostituées. Je crois que je ne serais pas tout à fait de cet avis-là. Il peut y avoir des prostituées dans le groupe, tout comme même des femmes qui sont mariées, il y en a qui font aussi la prostitution, tout cela. Mais c'est d'abord une question de faire confiance à ces femmes-là. Et c'est dire que nous seuls, hommes, nous ne pouvons pas. La femme a des dons, a des talents, a des capacités, elle a de l'ingéniosité, elle a de la créativité. Si vous prenez par exemple 2000 francs, vous donnez à un homme, à une femme, pour organiser la journée, l'alimentation d'une famille, je crois que l'homme s'en sortira moins. Et la femme peut bien faire les ménages ce jour-là. Alors moi je dis, faisons confiance à ces femmes, donnons-leur la possibilité de pouvoir apprendre, de pouvoir innover, qu'elles apportent toujours, qu'elles apportent quelque chose de neuf.
Père Adrien,
parce que la femme ne peut pas faire quelque chose de bien.
Père Adrien, on a l'impression...
Je crois que jamais notre société ne va évoluer.
Père Adrien, on a l'impression qu'il y a... Il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes deviennent autonomes. Ils veulent que leurs femmes continuent à dépendre à 100%.
Non, je crois qu'il s'agit d'une autonomie relative. Cela ne veut pas dire qu'elles ne veulent plus dépendre de leur homme, de leur mari et tout cela. Non, il s'agit d'une autonomie relative. Si un couple s'entend bien, une femme qui fabrique par exemple des beignets et tout cela, au cours de la semaine, bon voilà ce que moi j'ai eu, voilà ce que je produis et tout cela. Et cela met aussi l'homme en confiance. Ce qui détruit parfois, c'est quand l'homme, et plutôt la femme, veut carrément tourner le dos à l'homme parce qu'elle commence à voir des choses. Ça devient mauvais. Et ça, c'est un problème de morale matrimoniale. Alors, je crois que la chose la plus importante, c'est que ces hommes-là soient ouverts. Ces hommes-là se disent que ensemble nous pouvons faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons progresser. Alors, c'est une confiance mutuelle qui doit résider entre l'homme et la femme pour que ce processus de développement prenne le pied.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs. Magloire depuis Lubumbashi et Fariel Malassa depuis Lebo. Magloire, Kouli Kwinja, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'autonomisation de la femme rurale?
En tout cas, c'est une chose que nous remarquons, que nous constatons tous, c'est sur le plan national. La femme rurale est totalement abandonnée sur tous les plans. Et d'ailleurs, même cet abandon de la femme rurale cause aussi une déception des femmes. Parce que nous savons que c'est la campagne qui nourrit les villes, qui nourrit les centres. Et ce sont même les paysannes qui contribuent à ce développement. Et concernant cette thématique, moi, je penserais que le gouvernement devrait prendre en charge la femme rurale, surtout en mettant comme dans l'ancien gouvernement, je me rappelle avec Mobutu qui avait proclamé la priorité de la culture comme priorité des priorités, la culture agricole comme priorité des priorités. Et comment faire? D'abord, ici, nous avons toujours constaté qu'il y a une mauvaise politique de prix de production qui démotive, qui décourage la population, qui décourage cette femme rurale. La femme rurale qui se concentre à l'agriculture, mais elle se retrouve, elle produit peu, et le peu là est dégradé, n'a pas un prix qui est motivé, qui peut le motiver. Directement, elle se sent délaissée. Il y a aussi un manque d'encadrement. Le gouvernement n'encadre pas ces femmes rurales. Il fallait que l'on puisse procéder à un encadrement de ces femmes rurales. Et à part ça, nous avons toujours constaté aussi qu'il y a des terres, nous avons des terres, mais ces terres-là, à cause de l'agriculture qui est traditionnelle ici chez nous, et qui entraîne aussi une faible production, nous avons constaté que ça décourage les femmes lorsqu'elles produisent, mais elles produisent en petite quantité, avec nos terres aussi qui s'appauvrissent. Nous avons aussi un espace, une surface cultivée qui est réduite. Nous trouvons que vraiment le gouvernement devrait prendre en charge toutes ces préoccupations
ces femmes-là. D'accord.
Afin que ces femmes se sentent motivées par l'agriculture.
Merci Magloire. Fariel Malassa depuis Lebo, bonjour.
Bonjour M. Jody et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question par rapport à l'autonomisation de la femme rurale?
Oui M. Jody, moi j'ai juste une contribution par rapport à ce sujet. Et M. Jody, vous voyez que ces femmes travaillent sérieusement dans les milieux ruraux parce qu'elles nous produisent les denrées alimentaires à travers lesquelles nous, en milieu urbain, nous consommons et gonflons même. Pour que la femme rurale devienne autonome financièrement, elle doit aller apprendre à l'école comment lire, écrire, calculer, parler. Et elle doit s'interdire aussi de beaucoup mettre au monde. Et l'État doit nécessairement l'accompagner et rendre efficacement les infrastructures à celle fin que ces femmes vraiment se darer et nous aider aussi en milieu urbain. C'est pourquoi j'interpelle surtout l'État à s'éloigner de cette situation pour aider vraiment nos femmes à s'émanciper de cette situation, M. Jody.
Bien, donc elles doivent apprendre à lire, à écrire, à calculer et ne plus mettre au monde beaucoup d'enfants. Père Adrien Aguessé, vous avez la parole.
Je partirai du premier auditeur qui était en train de tacler le gouvernement sur la question de la non prise en charge des femmes rurales. C'est un constat qui est tout à fait évident. Notre société, si elle est là où se trouve maintenant, c'est parce qu'il y a cet abandon-là de la part du gouvernement. S'il y a des choses qui se font, c'est simplement au niveau de la ville. On n'est pas étonné que la ville comme Kinshasa attire tout le monde veut quitter l'intérieur, veut quitter les milieux ruraux pour venir en ville. Entre-temps, ceux qui produisent, ceux qui nous produisent de la nourriture, nous qui sommes en ville et tout cela, nous ne faisons que consommer. S'ils quittent les milieux, il se fait que la production diminue. Et comment est-ce qu'un pays peut progresser s'il n'arrive pas à produire? Pour produire, il faut des gens. Il faut qu'il y ait des gens qui aiment la terre. La terre, nous en avons. Nous pouvons dire qu'ici, nous avons une chance, une chance d'avoir ce beau pays qui a tout, qui a la terre, qui a l'eau. je vais vous faire une petite anecdote qui pourra vous faire rire. Moi, j'arrive au Tchad, au sud du Tchad, une nuit comme ça, là, je m'endors, vers 4 heures du matin, j'entends des tam-tams de partout, je me lève et puis je vais demander à mon conseil qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Elle me dit que c'est la fête de la pluie. Oh, la fête de la pluie? Effectivement, il avait plu cette nuit-là. Alors, quand moi je disais chez nous, on dit quand il pleut comme ça, c'est un dérangement. À peine, je n'avais pas fini ma parole, voilà, que des gens en moto, en bicyclette et tout cela, ils allaient au champ produire la nourriture pour toute l'année pendant des mois de pluie seulement. Et nous, on en a ici. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons nourrir cette Afrique. Ces gens-là, si l'État donnait un peu d'importance à ces gens du milieu rural, surtout à ces femmes qui produisent et tout cela, je crois que nous pourrions produire beaucoup et essayer de maintenir un peu notre production et notre économie. C'est à l'honneur donc de ces femmes rurales-là que nous, au niveau de la profonde Mabandundu, du 29 au 31 mars, que nous allons organiser une femme, et plutôt une fois, de la femme entrepreneur rurale.
Pour honorer du 29 au 31 mars.
Pour honorer ces femmes, parce que elles sont un peu à l'oubliette. Hein? Donc on les a jetées à l'oubli comme ça là. Donc moi je pense que lorsque nous essayons quand même un peu d'objectiver l'autorité publique comme ça là, de lui dire des choses, c'est pour qu'ils prennent conscience. Tant que nous mettrons de côté, tant que nous allons négliger ces femmes, je crois que ça sera un peu difficile pour amorcer les développements tels que nous le voulons. Alors, à propos de notre confrère, notre dernier auditeur qui a fait une bonne contribution, qui disait qu'il faut que la femme apprenne à lire, à écrire, à gérer, au niveau de notre association, nous avons aussi, nous faisons aussi de l'alphabétisation. Ces femmes qui viennent apprendre à faire des transformations des produits agricoles, il faut qu'elles savent lire, qu'elles essaient un peu d'écrire, et on leur apprend un peu à gérer leur petit commerce lorsqu'elles vont commencer des activités génératrices de revenus. Donc je crois que c'est dans ce sens-là. Tout ce que nous pouvons dire maintenant, que l'État, et surtout le nouveau gouvernement qui va venir, qu'ils aient l'œil, qu'ils aient le regard, mais aussi l'oreille tendue vers ces masses de femmes, de paysannes, de femmes rurales, des entrepreneurs rurales qui ont besoin effectivement de leur soutien, de leur aide.
Mmh. Bien, nous parlons aujourd'hui dans Capi Service de l'autonomisation de la femme rurale. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Comment réussir l'autonomisation de la femme rurale? Jean-Marc Baraka nous a écrit depuis Bounia, en Ituri, sur la page Facebook d'Okapi Service. Il nous dit ce qui suit. Il n'est pas du tout facile de rendre la femme rurale autonome, étant donné qu'elle est cible de grandes prises en charge familiales. Son autonomie, c'est sa préoccupation champêtre, artisanale, bien de foi. La bonne autonomie est à alors de lui disposer les structures d'aide humanitaire pouvant lui permettre et faciliter la vente de ses produits agricoles. C'est là pour la promouvoir. C'est Jean-Marc Baraka qui nous l'a dit depuis Bounia. Étienne, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody. Monsieur James depuis Lubumbashi.
Oui, on vous écoute, James.
Oui, je voudrais dire par rapport à l'autonomisation de la femme rurale, donc je voudrais dire que les problèmes
Oui, James, James, il y a des petits soucis au niveau de la liaison téléphonique. On ne vous entend pas très très bien. Vous pouvez peut-être nous rappeler avec notre numéro. On va accueillir Daniel. Non, il y a la réaction de Daniel Colella sur Facebook. La situation de la femme rurale est toujours préoccupante vu qu'elle est dans une large mesure marginalisée par les autorités compétentes. Il est vrai que déjà de revoir les attributions du ministère du Développement Rural qui ne reprend pas du tout, qui ne s'occupe pas de ces femmes, qui ne reprend pas du tout les différents services normatifs et spécialisés du dit ministère dont les contenus sont trouvables au secrétariat général de ce ministère. Nul doute que 70% de la population de la République démocratique du Congo est rurale. Allez-y comprendre que les activités et programmes que devraient exécuter les techniciens des divisions provinciales en la matière, ce sont plutôt les membres des cabinets qui, pour la plupart des personnes politiques, ne maîtrisent pas du tout les réalités en présence. Téné, il se laisse dire que c'est depuis des lustres, certains services des divisions provinciales du développement rural ne disposent même pas des frais de fonctionnement. Au sein de chaque division, il existe les services comme direction de l'économie rurale, direction des développements communautaires, service national des coopératives et organisations paysannes, etc. Déjà, ces services, bien que présents dans chaque territoire, ne disposent pas du charroi automobile, véhicule, moto, Yamaha, etc. Et voire même des vélos pour les déplacements des inspecteurs territoriaux du développement rural. Puissions-nous espérer le nouveau gouvernement, dit Wario, prendre en compte les préoccupations de la femme rurale par l'octroi des microcrédits à chaque femme bénéficiaire, tout en dotant aussi les divisions provinciales du développement rural des moyens conséquents pour faire le suivi, l'évaluation avec stratégie de concrétiser la vision le peuple est d'abord. Signé Daniel Moulamba-Kolela, expert en développement rural. Maître Adolphe Louengue, vous êtes à Louena. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous
bonjour
écoute.
Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'autonomisation de la femme rurale?
Merci, Jody. J'aimerais demander à l'invité, pourquoi ne pas commencer par sensibiliser les hommes? Parce que c'est les hommes qui sont auteurs ou qui empêchent les femmes à s'autonomiser. On peut réciter mille et une fois l'autonomisation de la femme tant que l'homme lui-même, qui est le tuteur de la femme, n'est pas conscient de l'apport qu'apporterait l'autonomisation de la femme. Je pense que cette autonomisation ne peut jamais avoir lieu. Par exemple, ici chez nous dans les Hauts, Lomami, précisément à Louena, il y a de ces femmes-là qui s'y donnent chaque fois et qui ont cette envie de bien travailler, de bien s'autonomiser et apporter une aide assez considérable dans leur foyer. Mais vous verrez que les hommes leur freinent. C'est les hommes qui ne veulent pas à ce que leurs femmes travaillent en disant que non, ils ne vont pas nous respecter, ils ne vont pas nous comprendre. Bon, ils sont devenus, une fois la femme devient autonome, bon, le mari n'aura pas cette autorité dans le foyer. Maintenant, j'aimerais dire à l'invité, qui est le prôtre, de commencer d'abord à sensibiliser les hommes et puis faire des démarches afin qu'il y ait une loi qui peut statuer sur l'autonomisation de la femme pour qu'une fois la femme commence à s'autonomiser, qu'il soit libre, qu'il soit couvert par une loi. Sinon, rien ne peut marcher sur ces points-là.
Bien, merci. Père Adrien Guessé, vous avez la parole.
Ah, mais je crois qu'il ne faut pas considérer cette autonomisation de la femme comme une indépendance vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de son mari. Moi, je prends plutôt positivement comme une contribution de la femme, par exemple, au niveau du foyer, que cette femme-là qui dépendait totalement, même pour un petit rien, toujours l'homme devait sortir ça de sa poche et tout cela, si bien que dans notre société, nous voyons les cas de ces femmes, de ces jeunes filles, quand elles ne sont pas mariées, elles trouvent que leur vie, c'est fini. Non, c'est parce qu'ils pensent dans leur tête que lorsque je me marie, l'homme va me prendre en charge en tout et pour tout. Moi, je considère cette autonomisation ici comme une contribution. Ce n'est pas une indépendance de la femme vis-à-vis de son mari. Alors, les hommes peuvent être tranquilles. Les hommes qui doivent comprendre que cette femme-là, c'est pour m'épauler aussi, si elle fait ça, pour contribuer. Vous voyez, la vie aujourd'hui est devenue très dure. Autrefois, un papa qui était enseignant pouvait gagner je ne sais pas combien, je prends l'exemple de 10 000 francs, avec ces 10 000 francs-là, il y en avait pour tout. Mais aujourd'hui, quand bien même on donnerait 100 à 200 dollars, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une autre main. Alors, une femme qui a appris à faire quelque chose, hein, à devenir plus ou moins autonome, et moi je dis de l'autonomie relative, dans ce sens-là, il faut que nous puissions prendre les choses positivement. Ce n'est pas une indépendance qui ferait que la femme n'a plus à considérer son mari, à un mari manqué de respect, à ne plus rien attendre de lui et tout ça. Ça, c'est non. Ça, ça serait une mauvaise autonomisation. Mais plutôt comme une contribution, un effort constant que la femme apporte dans la survie de la famille.
Voilà, un auditeur a dit qu'il faudrait qu'il y ait des banques, des structures, des microcrédits qui octroient des crédits à ces femmes pour leur permettre de développer leurs activités.
Mais ça serait une très très bonne chose si y a quelque chose comme ça qui existe au niveau, je ne sais pas dans quel milieu il est, mais s'il y a quelque chose dans ce sens-là, c'est une très bonne chose. Nous avons abandonné aux villes un groupe que nous avons formé qui s'est constitué à, ils appellent ça AVEC, Association Villageoise d'Épargne et de Crédit. Hein? Et se sont cotisés et je dois vous dire que ça marche très très bien. Mmh. Et chaque mois ils ont des réunions, chaque mois, c'est à la fin de l'année que chacun essaie de prendre quelque chose avec un intérêt parce que cet argent-là ils ont mis en caisse. Chacun peut venir emprunter mais remettre avec un certain pourcentage. À la fin de l'année, bon, ils essaient un peu de se partager les dividendes et chacun peut commencer à faire quelque chose d'autre. Donc,
elles font un peu
ça marche très bien.
Oui.
Et ce sont des choses qui devraient être multipliées. Ces banques-là, c'est l'État qui pourrait le faire, mais aussi des hommes de bonne volonté qui veulent bien le développement de notre société ou de notre communauté.
Là, par exemple, à Banonville, est-ce qu'il n'existe pas des coopératives où les femmes s'organisent, mettent de l'argent et puis elles peuvent accéder au crédit?
Bon, il y a, de ma connaissance, quelques coopératives, mais je trouve que ce n'est pas assez. Et parfois, même les conditions qui sont exigées ne permettent pas à celles qui veulent commencer quelque chose d'aller faire des emprunts. Mais je crois que ce sont des choses qu'on devait multiplier. Et surtout des banques, des crédits agricoles, surtout pour ces femmes paysannes qui peuvent faire quelque chose. Ça, c'est des choses que l'on doit encourager. Hein, ces choses, nous l'entendons souvent, c'est dans l'Est, là-bas, hein, du côté de Goma, Bukavu et tout cela.
Oui.
Mais ça, je dois le dire sans crainte d'être contredit. Au niveau de l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de ces initiatives. Hein. S'il y a financement, s'il y a telle chose, c'est toujours à l'Est. C'est toujours à l'Est que ça se fait. Mais au niveau de l'Ouest, Bandundu et autres choses, tout ça, il y a trop peu d'attention.
Alors, Père Adrien,
là-dessus.
Père Adrien, vous avez annoncé déjà qu'à la fin du mois de mars, du 29 au 31, vous allez organiser une grande activité avec les femmes rurales. Pouvez-vous nous dire comment la foire entrepreneuriale, voilà, des femmes rurales, comment ça va se passer concrètement?
Ça va se passer en trois étapes. D'abord, la première journée, ce sera un peu sur la sensibilisation de la femme entrepreneur rurale. Il y aura une conférence à leur endroit. Ça sera même en langue vernaculaire pour que tout le monde comprenne qu'elles se disent qu'elles sont importantes, qu'elles leur fait prendre conscience qu'elles ont de la place, qu'elles peuvent contribuer et tout cela. Le deuxième volet de ces journées, ça sera l'échange entre différents partenaires, parce qu'il y aura des celles qui ont fait la formation en technologie appropriée, et d'autres qui ont fait au niveau de la restauration, et d'autres encore des produits agricoles qu'elles ont fait. Et enfin, le troisième jour, ça sera l'exposition de tous ces produits-là. Donc, je crois que c'est une façon d'encourager un peu ces femmes-là, les faire prendre conscience de ce qu'elles ont, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles peuvent faire, mais ne les faire pas seules, mais partager l'expérience avec d'autres. Ça, c'est le deuxième jour, et enfin exposer leur production.
Alors, pour terminer, Père Adrien, ceux qui sont intéressés ou qui voudraient participer ou collaborer avec vous dans le cadre de ce forum de l'entrepreneuriat de la femme rurale, comment vous joindre?
On peut nous joindre au 082... 267,
oui.
87 et 67. Je réponds à 082 267 87 67. Ceux qui sont à Bandundu, c'est le centre Ntombwa qui est bien connu, le centre Ntombwa, centre de formation Ntombwa, au quartier Ebiko, hein, où nous écrire à Profem 2007, à Profem, je prends APPROFEM 2007, @gmail.com.
Voilà. Bien, merci Père Adrien Guessé. Je rappelle que vous êtes expert en développement et coordonnateur de l'ONG Action pour la protection et la promotion des femmes et enfants marginalisés à Profem à Bandundu-Ville. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Jules.
De Goma, de Matadi, au Kanaga,
au Sangani, au Capisport, au
Ouagadougou, au Capisport,
au Capisport, à Bukavu,
au Capisport,
au Capisport, partie interactive.
Bien, nous parlons de l'autonomisation de la femme rurale. On va accueillir Madame Brigitte Kanika. Elle est experte en développement. Elle intervient à partir de Kalemi dans le Tanganyika. Madame Brigitte, bonjour.
Bonjour,
bienvenue dans cette émission. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'autonomisation de la femme rurale?
Bon, je crois que pour réussir l'autonomisation de la femme rurale, il n'y a pas de chemin à faire. C'est d'abord de croire en cette autonomisation. Pourquoi je dis ça? Parce que on a commencé à parler de l'autonomisation de la femme depuis plusieurs années, mais en réalité, par rapport à la fertilité, c'est pas toujours évident. Et donc, la première des choses, ça sera de mettre d'abord le mécanisme en place pour que réellement la femme puisse être autonomisée. La deuxième des choses, non seulement on doit mettre les mécanismes en place, mais il faudra que ces mécanismes soient applicables et que ça soit appliqué. C'est seulement à partir de ce moment-là pourra parler de l'autonomisation. Et aussi, il faudra que, au niveau des décideurs, j'aime bien parler des décideurs parce que tout dépend d'eux, en fait, au niveau de la RDC, hein, tout dépend des décideurs, tant politiques que décideurs économiques, il faudra qu'à un certain moment, qu'ils reconnaissent l'apport de ces femmes-là dans l'économie du pays. Parce que la femme, qu'elle soit la femme en ville, que ce soit la femme rurale, elle participe énormément à l'économie, que ce soit l'économie formelle, tout comme l'économie informelle. Malheureusement, ces efforts ne sont pas toujours reconnus. Ce qui fait que cette autonomisation-là devient hypothétique. Parce qu'on en parle dans les slogans, on en parle dans les discours, mais dans les faits, c'est pas vrai. Et pourtant, la femme, elle contribue énormément. Et si nous avons, si nous connaissons cette croissance économique, c'est justement parce que cette femme-là, elle contribue à ce que cette économie reste stable et que ça puisse évoluer.
Voilà. Alors, certains disent que pour les autonomiser, il faut qu'il y ait des coopératives, des banques agricoles qui accordent des crédits aux femmes pour leur permettre de développer leurs activités.
C'est une possibilité. C'est une possibilité, oui, parce que comme nous le savons tous, c'est que la femme a un problème par rapport à l'accès aux finances. Et une des possibilités, exactement, c'est de mettre des lignes de crédit pour permettre à ces femmes-là d'accéder au financement pour financer leurs activités. Parce que souvent, en fait, la femme est butée à ces problèmes de moyens.
Madame Brigitte, vous sortez entrecoupé. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la liaison téléphonique. Je vais vous demander peut-être de bouger un tout petit peu. Peut-être que ça peut... communication peut s'améliorer.
Bon, j'espérais que là, ça s'est amélioré.
Un tout petit peu, allez-y quand même.
Donc, je tiens à vous dire, l'accès au financement par de crédit au niveau de banque, au niveau de coopérative, je crois que ça peut être une des solutions aussi. Parce que la femme a ces problèmes-là. La femme n'a pas accès à des moyens. Donc, elle ne sait pas financer ses activités, ce qui la bloque à un certain moment. Parce que 30% des femmes jusqu'à aujourd'hui dépendent des moyens des autres, soit d'un oncle, soit d'un cousin, soit d'un mari. Donc, elle n'a pas toujours accès au financement. important.
Madame Brigitte, oui, la communication n'est pas très 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 bonne, donc on sera on sera obligé d'arrêter. Mais on va vous reprendre une autre fois, une prochaine fois pour parler de ces sujets. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes experte en développement, intervenant depuis Kalemi dans les Tanganyika. À la prochaine. Et oui, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, on a parlé du vaccin et on a parlé également du vaccin contre Covid-19 et on a parlé également de l'autonomisation de la femme rurale. Merci d'avoir participé à cette émission de la vie au quotidien. Merci à toute l'équipe des productions. Tati Mapoukou a été à la réalisation et la coordination. Mimi Kindou a assuré la mise en onde au micro. Jeudi, Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matois, qui tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Vous allez suivre tout à l'heure les informations. À la prochaine.